Il est 9h30 à Paris. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Des combats ont repris ce matin au nord de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Affrontement entre l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles M23 soutenus eux par le Rwanda. Hier, ces mêmes combats s'étaient concentrés à Sake, c'est à l'ouest de Goma. Des violences qui ont poussé certains habitants à franchir la frontière avec le Rwanda. Reportage dans un instant. Dans ce journal également, le Bénin et le procès d'Olivier Bocco et Oswald Omeki, finalement mis sur pause jusqu'à mardi. Le Nigeria, où les tarifs de télécommunications vont augmenter de 50%. Et la Centrafrique, qui vient de présenter l'un des plus gros diamants jamais extraits de ses mines. De nouveaux combats signalés donc ce matin, non loin de Goma, dans l'est de la RDC. D'après notre correspondant, des tirs ont été entendus dès 4h du matin, heure locale, au niveau de Kibumba, c'est au nord de Goma. Alors que ce matin, la situation était plus calme à Sake, la localité qui a concentré l'essentiel des violences hier. Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale du Nord Kivu. Des affrontements qui opposent toujours forces armées congolaises et leurs différents alliés aux combattants du M23, soutenus eux par l'armée rwandaise. Hier, Goma a vu affluer les habitants de Sake ainsi que de nombreuses personnes déjà déplacées. Alors que de leur côté, certains habitants de la ville ont eux préféré franchir la frontière rwandaise et trouver refuge dans la ville de Rubavu. Reportage de Lucie Mouillot.
Devant la grande barrière, les taxis se pressent pour aborder les voyageurs arrivés de Goma en nombre avant la fermeture quotidienne du poste frontière en milieu d'après-midi. Une valise à la main avec ses deux enfants, Amina a préféré passer la nuit à Rubavu.
Mon mari habite ici. Il m'a dit de venir juste de traverser aujourd'hui avec les enfants pour cause des paniques qui est dans la ville de Goma. Pour la raison des guerres. Juste ça.
Une précaution prise par un certain nombre d'habitants de Goma, inquiets suite à l'intensification des combats dans la zone. Sac en main, Innocent Mansourou a décidé de traverser la frontière pour se réfugier dans un hôtel.
Au niveau de la douane, c'était plein à craquer. Quand on a de petits enfants, on ne va pas attendre et quitter à la dernière minute. Parce que tout peut changer, on ne sait pas, nous on n'est pas à la ligne de front, on ne sait pas ce qui se passe là-bas.
Dans un communiqué, la société civile de Goma appelle la population au calme et à ne pas quitter la ville. Mais les détonations entendues ce jeudi jusqu'à Rubavu ont poussé certains habitants à se mettre à l'abri.
Même maintenant qu'on se parle maintenant, il y a Inobi qui vient de se faire attendre jusqu'ici où nous sommes. Alors imaginez ceux qui sont de l'autre côté, c'est comme si ça explose juste dans la parcelle voisine. Voilà ce qui fait qu'on a décidé de quitter.
Comme beaucoup, Innocent prévoit d'attendre ici l'évolution de la situation sécuritaire en espérant pouvoir rentrer le plus rapidement possible à Goma. Lucie Mouillot, Rubavu, RFI.
Et hier, de son côté, le secrétaire général des Nations Unies s'est dit alarmé, Antonio Guterres, qui condamne l'offensive des rebelles du M23. Elle accroît, pense-t-il, le risque d'une guerre régionale. Quelques jours de suspension, faute d'avocat au Bénin. Le procès de l'homme d'affaires Olivier Bocco et de l'ancien ministre Oswald Omeki. Ce procès reprendra le 28 janvier, mardi de la semaine prochaine. Décision hier de la CRIET, la Cour de répression de l'enrichissement illicite et du terrorisme, qui les juge notamment pour complot contre l'autorité de l'État. Alors que leurs avocats se sont retirés collectivement au début de la semaine, au premier jour de l'audience, il faut maintenant leur trouver des remplaçants commis d'office. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
La présidente de la Cour avait annoncé à l'audience précédente recourir au barreau pour commettre des avocats d'office. Il n'y en avait pas ce jeudi. D'entrée, la présidente demande aux accusés s'ils ont recruté de nouveaux avocats. Olivier Bocco et Oswald Omeki répondent « Comment c'est possible, dans un délai aussi bref et dans des conditions de détention où on est enfermé toute la journée ? Combien de temps il vous faut ? 15 jours, réclament Olivier Bocco et Oswald Omeki. Excessif, souligne le ministère public qui demande de leur accorder 5 jours. La cour le suit et renvoie la poursuite du procès au mardi 28 janvier. Le procureur spécial remet une couche sur le retrait des avocats. C'était prévisible et attendu. Le scénario était écrit de longue date. Je peux vous raconter la fin du film, accuse Mario Metonou. Les avocats visés sont présents. Ils ne peuvent pas réagir. Ils ne sont plus dans le dossier. Oswald Romeki s'en charge et lance France. Nous n'avons écrit aucun film. La preuve, nous sommes devant vous. Nous voulons être jugés pour que les Béninois connaissent la vérité. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La criette qui a par ailleurs condamné hier à 30 ans de prison un régisseur de la Direction Générale des Impôts ainsi qu'un féticheur, condamnés tous les deux pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Ils étaient jugés pour avoir détourné en 2019 plus de 4 milliards de francs CFA. Au Sénégal, trois militantes féministes ont été convoquées avant-hier par la police, interrogées sur l'organisation d'un événement qui n'a pas eu lieu le mois dernier. Elles avaient annoncé un sit-in seins nus pour alerter sur l'augmentation des violences faites aux femmes et des viols. Un rassemblement finalement annulé après son interdiction par le préfet. Aujourd'hui, le réseau féministe dénonce une stratégie d'intimidation et appelle les autorités à se mobiliser davantage sur ces questions de genre. La docteure Ndeye Kadi Babou, médecin, est l'une des coordinatrices du réseau des féministes au Sénégal.
Est-ce qu'aujourd'hui on se demande pourquoi est-ce que des femmes décident d'utiliser leur corps à visée de revendication? Et malheureusement, nos autorités et tous ces mouvements anti-droits passent à côté de l'essentiel. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à mettre en avant la question des violences que les femmes et les jeunes filles subissent dans ce pays? Et du coup, on sait pertinemment que cette convocation-là entre dans cette ligne de réprimer les activistes lanceurs d'alerte. C'est aussi pour décourager la dénonciation publique des crimes que les femmes subissent et oublier du plus important, c'est-à-dire qu'au Sénégal, sur les derniers rapports statistiques que nous avons de 2023, on sait qu'avant l'âge de 18 ans, 8 femmes sénégalaises sur 10 ont déjà eu à subir des violences, que ce soit sexuelles, physiques, verbales, etc. On sait qu'au cours de toute la vie, 9 femmes sénégalaises sur 10 ont eu à subir des violences au Sénégal. Et donc la grande question, c'est de savoir jusqu'à quand ce silence assourdissant de nos autorités par rapport à cette problématique systématique qui est aujourd'hui un problème de santé publique.
La coordinatrice du réseau des féministes au Sénégal au micro de Léalisa Westerhoff. Une augmentation souhaitée par les opérateurs, mais qui ne sera sans doute pas du goût des utilisateurs au Nigeria. Plus 50% pour les tarifs de la téléphonie mobile. Et les opérateurs souhaitaient même aller plus loin, nous explique Charlotte Cossé.
Cet ajustement vise notamment à combler l'écart important entre les coûts opérationnels et les tarifs actuels, tout en garantissant la fourniture des services, précise le communiqué de la Commission. Elle doit également permettre aux opérateurs d'améliorer le réseau et la couverture. Et pour cela, les opérateurs doivent investir dans les infrastructures et l'innovation, alors que les tarifs étaient inchangés depuis 2013. Lignes, plateformes, logiciels, ces investissements se font en dollars, souligne la spécialiste du secteur, Tekla Mbong. Dans un contexte de forte dépréciation du Naira, les coûts sont de fait plus lourds à porter. La suppression des subventions au carburant ont également imposé de nouvelles charges pour les opérateurs, les générateurs prenant régulièrement le relais d'un réseau électrique aléatoire. Cependant, cette augmentation intervient dans un contexte économique compliqué pour les Nigérians. Ces derniers sont confrontés à l'une des pires crises du coût de la vie avec une inflation qui dépasse les 30%. Cette hausse va peser sur les budgets des ménages. L'Agence nigérienne de protection des consommateurs a prévenu, cette hausse doit se traduire par une amélioration significative du service.
Charlotte Cossé, enfin, c'est une pierre précieuse qui fait la fierté des autorités de Bangui. Un diamant de près de 178 carats, l'un des plus gros de l'histoire de la Centrafrique, extrait dans le sud du pays et présenté hier. Il va pouvoir être mis sur le marché de manière légale puisque la Centrafrique a été réintégrée à la fin de l'année dernière dans le processus de Kimberley, le système de certification des diamants, à la grande satisfaction de Paul Cressant Beninga, membre de la coalition pour la société civile du processus de Kimberley.
Il faut saluer aussi la transparence dans laquelle les choses sont en train d'être faites, parce que dès que le diamant a été extrait, le diamant est découvert, on n'a pas fait dans le Katimini, on a amené le diamant au niveau des services compétents, en l'occurrence le Bec d'Or et le secrétariat du processus de Kimberley, et il y a toute une procédure, il y a toute une ingénierie permettant de faciliter l'export de diamants, ça permet de tracer ce diamant. Et donc, le fait aujourd'hui que ce diamant se trouve au niveau du Bec d'Or à Bangui, c'est déjà un bon signe. Ça témoigne de cette volonté de faire toute la transparence autour de ce diamant-là. Un diamant de cette taille-là, ça ne profite pas qu'aux collecteurs, mais aussi à l'État centrafricain. Mais ce qui est extrêmement important, c'est la communauté dans laquelle le diamant a été extrait. Nous plaidons pour que le contrat qui va être conclu entre l'État centrafricain et l'organisation ou la personne qui va acheter ce diamant, qu'on tienne compte également en termes de pourcentage de la communauté. C'est extrêmement important. Il faut qu'un fonds soit versé pour le développement de la commune de Zakou.
À Bangui, en Centrafrique, il est maintenant 9h40 et vous êtes avec Juan Gomez.
Merci Xavier Besson, bonne journée. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine.